La droite française en quête d'identité, persuadée qu'elle succéderait à François Hollande sans grande difficulté, la droite française n'avait pas vu venir Emmanuel Macron. Plus de 20 mois après le début du quinquennat, à quelques semaines des élections européennes, l'offre politique proposée par le parti de Laurent Wauquiez reste à affiner pour en discuter, pour discuter de cette droite française qui se cherche une identité. Nous sommes en compagnie de Françoise Fressoz. Bonjour, vous êtes éditorialiste politique au Monde et à côté de vous se trouve Jean-Baptiste de Froment. Bonjour. Vous êtes conseiller de Paris et du Grand Paris, vous êtes agrégé de philosophie et vous avez publié un roman intitulé L'État de nature. État de nature, c'est aux forges de Vulcain. Ce roman est en partie prophétique et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité tous les deux pour évoquer la manière dont la crise des Gilets jaunes avait bousculé la droite et dans quelle mesure elle va obliger à une composition ou à une recomposition de cette droite. Vous, Jean-Baptiste de Froment, vous êtes engagé en politique à droite et dans ce roman qui est une œuvre de fiction, vous avez en partie prophétisé l'avènement des Gilets jaunes. Expliquez-nous ce que vous avez voulu dire dans État de nature.
Dans État de nature, j'ai voulu mettre en scène une opposition entre la France, disons d'en haut, entre la technocratie parisienne et puis le fin fond d'une province. Alors j'ai imaginé une région qui s'appelle la Douvre intérieure et qui incarne un peu la France profonde et qui, alors que personne ne s'y attend, va tout à coup se soulever. Et c'est l'histoire de ce soulèvement, ce roman. Et je crois que justement, je ne suis pas parti des questions de droite ou de gauche. Il y a des personnages qui s'affrontent dans le livre, mais on ne sait pas très bien à quel camp ils appartiennent. Et je crois que là où peut-être ça vise juste, c'est qu'on est dans un moment politique aujourd'hui où les notions de droite et de gauche sont plus très opérantes et où finalement il y a d'autres oppositions qui, à mon avis, structurent beaucoup la France et qui remontent à la surface. C'est l'opposition Paris-Province, c'est l'opposition élite-peuple, c'est l'opposition nature-culture même, c'est l'opposition technocratie contre... Voilà, Jean d'en bas, c'est tout ça qui remonte et qui, à mon avis, n'est pas traduisible directement en termes de droite et de gauche.
C'était les ingrédients que vous aviez perçus, puisque vous êtes engagé en politique depuis quelques années, Jean-Baptiste de Froment, que vous aviez perçus et qui étaient annonciateurs de cette crise. Alors, vous ne la nommiez évidemment pas dans État de nature, mais enfin, est-ce que vous pressentiez comme étant l'une des pathologies françaises, l'une des crises que l'on pouvait voir advenir?
Oui, tout à fait. J'ai eu une expérience, moi, à la présidence de la République, à l'Élysée, et donc j'ai
avec
pu
Nicolas Sarkozy.
Avec Nicolas Sarkozy, j'ai pu ressentir combien, en fait, ce monde-là avait tendance, de façon presque naturelle, mécanique, à se refermer sur lui-même. Je suis aussi un élu parisien, mais avec des attaches de France profonde et l'impression de vivre dans une bulle et le sentiment que au-delà de cette bulle il y a un pays qui existe et qu'on ne voit plus ça me semblait nécessairement devoir déboucher sur quelque chose d'un peu insurrectionnel.
Avec une interrogation, Françoise Fressoz, puisque cette crise des Gilets jaunes, a priori, elle aurait pu profiter de manière évidente aux Républicains, elle aurait pu leur profiter tout simplement parce que il y avait un ancrage dans le terroir, un signe qu'il y avait une sorte de supériorité parisienne indue. Et pour autant, sauf si vous n'êtes pas d'accord avec cela, Françoise Fressoz, on n'a pas l'impression que cette crise profite véritablement à cette droite-là.
Non, vous avez raison, et c'est vrai que c'est un paradoxe, parce que Laurent Wauquiez, quand il prend le parti Les Républicains, il coche à peu près toutes les cases de la révolte sociale. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers à pointer l'effet de la limitation de la vitesse à 80 km/h. C'est un des premiers qui va mettre en avant le fait que les retraités qui avaient soutenu Emmanuel Macron, ils vont devoir payer alors qu'on ne les avait pas avertis. C'est l'un des premiers qui met en garde contre la trajectoire carbone. C'est-à-dire que à l'Assemblée nationale, quand vous regardez les débats, effectivement, LR pointe en disant « Attention, il y a en germe une révolte sociale ». Donc, il a pointé à peu près toutes les cases parce qu'il s'est mis sur ce positionnement d'une droite un peu populaire qui doit récupérer une partie de l'électorat qui est parti chez Marine Le Pen. La difficulté, c'est ce que Marine Le Pen dit. Il dit qu'il est en retard sur tout. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a occupé le terrain. Et au fond, quand vous regardez toutes les études qui ont été faites par des sociologues au cours des 10 dernières années, ils ont très bien vu ce mouvement des Gilets jaunes. Ils ont vu la désespérance d'une partie des classes populaires. C'est ce que Marine Le Pen appelle les justes en dessous. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont à 50 euros près à la fin du mois, qui ont en général un salaire, qui ont en général un salaire qui a très peu de débouchés dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a très peu de perspectives d'augmentation. Et ils sont vraiment à un euro près. Et quand vous leur mettez dessus tout d'un coup des charges indues qui sont par exemple le prix de l'essence, le prix du chauffage, alors là ils sont au bord de la révolte parce que ils en ont vraiment pour leur vie. Marine Le Pen a extrêmement cultivé cet électorat-là depuis 10 ans. Elle a aussi beaucoup percé chez les femmes seules. Elle a mis en exergue le problème des transports. Et donc on voit bien que même si le mouvement se dit apolitique, même si c'est un mouvement qui a beaucoup de mal à se structurer et à faire émerger des leaders, l'imprégnation est quand même très proche des thèses du Front National parce qu'elle a mêlé Marine Le Pen, la crise sociale et la crise identitaire. Je pense aussi qu'il y a cette espèce de sentiment qu'au fond, les politiques ne peuvent plus rien pour eux, qu'on les a abandonnés. Il y a eu beaucoup aussi, on a beaucoup mis en évidence, si vous voulez, les personnes qui ont choisi de s'installer en périurbain, dans des pavillons, en pensant qu'ils allaient avoir une vie agréable. Et en fait, ils sont loin des services publics, loin de l'éducation, loin des transports, et ils se sentent complètement abandonnés. Et je pense que Marine Le Pen, depuis 10 ans, travaille cet électorat-là. Et quand on voit, je crois que c'est Jérôme Fourquet pour l'IFOP qui a fait une étude un peu sur ceux qui soutenaient les Gilets jaunes, 45% sont des électeurs de Marine Le Pen. Et donc, je pense que c'est ce qui explique la difficulté de Laurent Wauquiez de récupérer ces personnes, c'est que Marine Le Pen avait déjà beaucoup travaillé cet électorat-là.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Baptiste Defremont, vous qui êtes engagé aux côtés des Républicains, qu'est-ce qui explique que Laurent Wauquiez, peut-être, parle moins aux Gilets jaunes que Marine Le Pen ou d'autres partis politiques, d'ailleurs ?
Oui, alors peut-être, pour être tout à fait honnête, je suis pas très très proche de Laurent Wauquiez, mais moi je partage tout à fait ce qui vient d'être dit par Françoise Fressos. Il y a un paradoxe au départ, parce que c'est vrai que Laurent Wauquiez a posé plutôt le bon diagnostic. Simplement, il a deux difficultés. D'abord, je pense qu'il incarne, et les Républicains de façon générale incarnent encore trop l'establishment. Et on voit bien que même s'ils tiennent à la limite le bon discours, ils ne sont pas les bons porteurs de ce discours. Ils ne sont pas reconnus comme des gens légitimes pour porter la voix du peuple, des Gilets jaunes. Et ça, c'est vrai que le Front National le fait mieux. Enfin, donc j'aurais ce sentiment. Et puis après, de façon plus structurelle, c'est vrai que la place a déjà été prise. Et la droite française, c'était une synthèse. Ça a toujours été la synthèse entre plusieurs courants. Il y avait les libéraux, les conservateurs, bon, je ne vais pas reprendre la tripartition bien connue de Sciences Po.
Non, vous pouvez, mais
les légitimistes, les orléanistes et les bornapartistes.
Mais c'est justement ça, parce que parmi ça, les orléanistes qui incarnaient, disons, la sensibilité libérale, ça c'est la droite giscardienne, alors qui a pu être représentée par exemple chez Nicolas Sarkozy, qu'il était beaucoup moins par Laurent Wauquiez, en tout cas aujourd'hui dans son discours actuel. Comment cela se fait-il que cette droite qui est plus bonapartiste, qui donc a fait le bon constat, qui se présente avec les atours d'un ancrage dans le terroir français, et qui a même mis un gilet jaune avant que beaucoup d'autres responsables politiques ne le fassent, même si aujourd'hui Laurent Wauquiez ne s'en souvient peut-être plus forcément. Comment cela se fait-il que ça ne fasse pas sens ? Est-ce uniquement un problème d'incarnation ? Parce que l'incarnation de Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé, elle n'était pas finalement plus adéquate.
Oui, mais son espace s'est réduit parce que la droite orléaniste, maintenant, elle est reprise par Macron, à mon avis. Et puis, il y a eu Marine Le Pen qui a pris le fond bonapartiste. Enfin, donc, il lui reste quand même plus grand-chose. Hein.
Françoise Fressos, votre point de vue sur cela, est-ce que ça signifie que l'espace est à ce point raréfié que la recomposition est obligatoire, alors une recomposition à laquelle songent certains à droite, ou bien certains au Rassemblement national, puisqu'il y a également des élus, notamment Thierry Mariani, des élus Les Républicains qui ont rejoint le Rassemblement national.
Il me semble, au fond, tout dépend de l'analyse que fait la droite. Beaucoup ont le sentiment que Emmanuel Macron, au fond, c'est un accident de l'histoire et que bon, il a pris son risque, il y est allé, mais ça va pas durer et que tout reviendra dans l'ordre après. Moi, mon sentiment est plutôt que il s'est passé quelque chose de très profond dans la société française au moment de l'élection d'Emmanuel Macron et qu'au fond, une partie des électeurs ont acté l'impuissance et de la gauche et de la droite. Et donc, il me semble que pour la droite, l'important aujourd'hui, c'est d'essayer de réfléchir à une nouvelle façon d'une nouvelle identité de la droite. Elle est encore présente, hein, puisqu'elle est présente sur les territoires, elle a des villes, elle a des régions, mais, comme dit Jean-Baptiste de Froment, elle est complètement éclatée. C'est-à-dire que vous avez la droite libérale qui est très en phase avec Emmanuel Macron, même si elle s'est pas complètement ralliée, mais elle est très en phase. On voit la droite populaire qui est en partie captée par Marine Le Pen, et on voit aussi que, au fond, la droite ne sait pas trop comment réagir par rapport à l'évolution du capitalisme. Est-ce qu'elle doit rester complètement libérale dans ses recettes économiques? C'est ce que faisait Laurent Wauquiez, qui misait beaucoup sur l'identité, mais sans vraiment changer le fond filloniste, qui était très baisse de la dépense publique, baisse des impôts, d'accord, mais comment vous résolvez la question sociale à travers ça? Donc vous avez un problème d'identité, et alors ce qui m'a intéressé, c'est par exemple Bellamy. Bellamy, c'est une tentative de réfléchir, c'est un philosophe qui essaye de régénérer la droite, de repenser la droite, et puis tout d'un coup, il va aller partir aux élections européennes, et on se dit, mais est-ce que c'est pas trop tôt?
Parce que c'est lui qui va mener la liste.
Voilà, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que lui-même ne gâche pas ses chances? Est-ce que la droite ne doit pas faire une introspection sur son identité et la reconquête beaucoup plus profonde?
En tout cas, en attendant l'introspection, il y a des départs, notamment celui de Thierry Mariani.
Vous savez, on quitte une formation dans laquelle on a été pendant 42 ans, pas facilement. Pourquoi je la quitte? À regret d'ailleurs. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de stratégie et plus de programme. Plus de stratégie. Pour gagner une élection, si demain on veut être majoritaire en France, il faut des alliés. Or, aujourd'hui, les Républicains n'ont plus d'alliés. Si on ne veut plus tromper nos électeurs, il faut être clair, renverser la table, faire d'autres alliances. Et malheureusement, je pense que les Républicains ne sont toujours pas prêts à ça. À mon avis, la seule liste qui a une position très claire, où à la fois préserver l'identité européenne, préserver l'identité de nos nations, avoir une politique énergique en matière de protection des frontières, de protection de nos entreprises, c'est la liste qui est présentée par le Rassemblement national.
La voix de Thierry Mariani, votre point de vue à ce sujet, Jean-Baptiste de Froment, parce qu'il a raison, arithmétiquement, Thierry Mariani.
Oui, il franchit le Rubicon. Hein. Bon, il le fait parce que
parce qu'il s'est compté.
Parce que peut-être qu'il s'est compté. Enfin, il dit qu'on a besoin d'alliances.
Si la politique, c'est de l'arithmétique.
La droite, justement, traditionnellement, c'était une synthèse de plusieurs courants, et c'était déjà une alliance. Voilà. Simplement, les orléanistes ayant fait sécession, effectivement,
étant parti chez Emmanuel Macron,
le reliquat, disons, plus à droite, plus conservateur, peut-être plus populaire, se trouve trop étriqué et devient en réalité une, si on raisonne en termes purement tactiques, une variable d'ajustement pour le Front National, une force d'appoint pour le Front National, et c'est la conclusion qu'il tire en allant directement au Front National.
Mais la distinction est de plus en plus difficile à faire entre le Rassemblement National et une droite qui va se dire être une droite des valeurs, qui va évoquer un certain nombre de thèmes liés à l'immigration. Cette arithmétique-là est d'autant plus aisée à faire que la barrière est plus ténue, peut-être, Jean-Baptiste de Froment.
Oui, c'est évident que de plus en plus on entend chez une certaine droite des Républicains, voilà, quand on leur demande quelle est la différence avec le Front National, ils prennent pas les sujets identitaires ou d'immigration, ils prennent les sujets économiques. Voilà. en disant nous, nous sommes raisonnables, nous sommes pas pour la sortie de l'euro. Et c'est d'ailleurs le discours qu'ils essayent de tenir sur l'Europe. Simplement, la difficulté, c'est qu'on voit bien que le débat sur l'Europe, ça va être entre une vision un peu intégrationniste, un peu fédéraliste que va porter Macron d'un côté, et puis de l'autre côté Marine Le Pen, qui elle incarne le souverainisme, disons, chimiquement pur. Et le discours entre les deux est pas très très simple à faire passer.
Françoise Fressoz, est-ce que ça veut dire qu'il y a là une possibilité, une autre voie pour cette partie des Républicains qui est tentée par le Rassemblement National? Est-ce que la fusion des deux, enfin d'une partie des deux, puisque tous les Républicains ne veulent pas s'allier au Rassemblement National, est-ce que cela pourrait être une formule gagnante?
Alors, en tout cas, il y a une tentation et je pense que Mariani le fait parce qu'il acte l'échec de la stratégie de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'était l'idée de dire Marine Le Pen a été extrêmement affaiblie par son échec à la présidentielle et donc je peux récupérer, c'est ce que disait aussi Nicolas Sarkozy, je peux récupérer la partie des électeurs ex-RPR qui sont allés au Front National. Il a échoué parce qu'au fond, Marine Le Pen a reconstitué sa capacité assez fortement. Et donc aujourd'hui, une partie des personnes des Républicains disent « mais on n'y arrivera pas si on ne fait pas une alliance avec l'extrême droite ». Et je trouve que l'évolution de Marine Le Pen, y compris sur l'Europe, favorise ça, puisque elle a renoncé à sortir de l'euro. Vous avez vu, ça a été la grande évolution après le débat présidentiel où elle s'est aperçue qu'au fond, elle était dans une impasse. Elle a décidé d'arrondir les angles sur l'Europe. Son projet, alors elle défend toujours une souveraineté nationale, mais au fond, on sait plus trop bien si quel traité elle va remettre en cause, comment elle va se débrouiller. Mais du coup, la question européenne, qui était un gros élément de différenciation entre droite et extrême droite, devient un territoire beaucoup plus poreux. Donc, il peut y avoir, pour une partie des électeurs, les Républicains, l'idée de se dire qu'il n'y a que par une alliance avec l'extrême droite qui retrouveront le pouvoir un jour.
On va continuer à évoquer cette alliance possible, également l'apparition d'autres voix, par exemple celle de Valérie Pécresse, avec une annonce hier, une tentative de construire un programme alternatif à Laurent Wauquiez. On en reparle aux environs de 8h20 en votre compagnie, Françoise Fressoz. Vous êtes éditorialiste politique au journal Le Monde et Jean-Baptiste de Froment. Vous êtes conseiller de Paris et du Grand Paris, agrégé de philosophie et auteur du roman État de nature aux forges de Vulcain. Il est 8h sur France Culture. Et on continue à évoquer la politique, plutôt la politique à droite, la droite française en quête d'identité. On continue à évoquer cette composition, cette recomposition de la droite. Nous sommes en compagnie de Françoise Fressoz, éditorialiste politique au Monde, et de Jean-Baptiste de Froment, conseiller de Paris et du Grand Paris, agrégé de philosophie, auteur du roman État de nature. Il est publié aux Forges de Vulcain. Mais peut-être, puisque Frédéric Saïs a débuté son billet politique sur l'état du PS et que celui-ci, après tout, n'est peut-être pas forcément plus reluisant que celui des Républicains, une remarque, une réaction à cet égard, Françoise Fressoz.
Je pense que la gauche est davantage en difficulté que la droite, parce que je pense que le centre de gravité du pays évolue plus vers les valeurs de droite que vers les valeurs de gauche. Et on le voit assez fortement, toute la construction autour du Parti Socialiste s'est délitée, c'est-à-dire que le Parti Socialiste n'est plus considéré comme le chef de la majorité plurielle. On voit bien que les écologistes essayent de refaire bande à part, essayent de reconstruire en pensant que c'est eux qui seront la force vitale dans les années à venir. Et puis on voit aussi Jean-Luc Mélenchon qui a fait le pari de pouvoir agréger autour de lui une bonne partie de la gauche populaire et qui au fond bute lui sur l'électorat de Marine Le Pen parce qu'elle a aussi préempté cet électorat-là, ce qui fait qu'il est aussi en difficulté. Donc je dirais que la gauche est plus en difficulté aujourd'hui que la droite.
Jean-Baptiste de Froment, votre point de vue, puisque dans ce roman État de nature, vous évoquez une situation qui est finalement assez comparable, qui peut évoquer la crise que traverse la France, celle des Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, la gauche, le Parti Socialiste, est également en difficulté par rapport à cette crise, avec un hiatus entre ce qu'ils proposent et ce que veulent aujourd'hui les Français?
Je crois qu'on est dans une situation où elle est toute tout est très très mouvant et les catégories de droite et de gauche, elles sont plus très 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 pertinentes. En tout cas, au moment politique où on parle, les gilets jaunes, ils sont difficilement assignables politiquement. Et c'est vrai que quand on voit des partis comme le Parti socialiste qui se livre à une sorte de droit d'inventaire un tout petit peu égocentré, narcissique, je pense qu'ils envoient pas un bon message. Ils ont peut-être raison de le faire en privé, mais cet exercice public du droit d'inventaire me semble pas du tout à la hauteur et des enjeux. Et c'est pas une bonne façon, à mon avis, de se reconstruire.
On va écouter Laurent Wauquiez et on va l'écouter sur François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains, car aujourd'hui, c'est l'un des sujets de polémique à l'intérieur même des Républicains.
C'est quelqu'un, oui, qui croit qu'au nom de la modernité, il ne faut pas tout détruire. Qu'il faut des repères, qu'il faut des valeurs, qu'il faut des limites. C'est un de ceux qui a dénoncé notamment les ravages de toute la pensée post-1968 dans l'éducation nationale. Et je vois bien que, bien sûr, par rapport à un certain nombre de chantres du politiquement correct, ça ne correspond pas à ce qu'on considère comme étant admissible. Et donc, à peine sa candidature est annoncée, que toutes les forces se sont déchaînées pour le caricaturer, le détruire. Je pense que c'est une profonde erreur. Pourquoi ? Parce que, en politique, on ne réussit pas en marchant à l'ombre. Et donc, oui, j'assume. J'assume de dire que je veux que la droite s'appuie aussi sur ses valeurs, sur ce à quoi elle croit, sur ses idées.
Françoise Fressaud, c'était un choix habile que celui de François-Xavier Bellamy. Est-ce que Laurent Wauquiez ne voulait-il pas, par exemple, que les regards et les critiques se concentrent sur lui, marquant ainsi une identité ?
Moi, je trouve que c'est un choix très curieux, parce qu'au fond, si Laurent Wauquiez avait été en situation, c'est lui qui devrait porter la liste. Vous êtes chef de parti, vous portez la liste et vous allez à la bataille. Il y va pas, donc je pense qu'il a déjà l'idée que ça va pas être terrible comme résultat. Deuxième chose qui me surprend, c'est que, au fond, Bellamy, c'est essayer de fidéliser à droite une partie de l'électorat Fillon, c'est-à-dire les familles, les retraités. Mais c'est pas du tout le positionnement qu'avait choisi Laurent Wauquiez, qui était allé plutôt vers la droite populaire, les milieux populaires. Donc je pense que le choix de Bellamy, c'est de se dire bon bah j'ai échoué dans ma stratégie d'aller reconquérir l'électorat de Marine Le Pen, et là je vais essayer de sécuriser un socle, le socle filloniste, qui fait combien, peut-être 10-15%, en espérant
qui faisait plus à la présidentielle, parce que
qui faisait beaucoup plus après.
Bien sûr. On le sait, quasiment 20%, mais surtout, Françoise Fressaud, il y a l'idée que la présidentielle s'est déroulée dans un contexte particulier. François Fillon a connu les polémiques que l'on sait sur l'emploi de son épouse. Bref, avec toutes ces polémiques-là, atteindre ce score-là montre qu'il y a un vrai réservoir de droite dans le pays pour une droite qui est une droite des valeurs, qui est une droite aussi libérale.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, sauf que il suffit pas d'avoir cette droite des valeurs. Si vous voulez vraiment un jour revenir au pouvoir, il faut arriver à réagglomérer la droite des valeurs, retrouver aussi une droite populaire, parce que sinon vous n'êtes pas majoritaire dans le parti. Et c'est, je pense, cette difficulté-là. Il n'y a pas encore de discours construit pour récupérer ces deux types d'électorats. Et donc là, pour le moment, je pense qu'ils essayent de préserver le socle minimum qui permettra ensuite de reconquérir quelque chose.
Frédéric, oui, pour mémoire, François Fillon, c'est 7 300 000 voix à l'élection présidentielle de 2017, 20%. Et c'est surtout un électorat qui se déplace plus, ce qui n'est pas anodin dans la perspective des élections européennes où il y a une très forte abstention. Il y a aussi le volet économique qui est intéressant, me semble-t-il, chez Laurent Wauquiez, qui utilise le mot de protectionnisme, qui est un mot qui n'avait pas été utilisé par les grands leaders de la droite depuis les 15 ou 20 dernières années. Nicolas Sarkozy, évidemment pas. Jacques Chirac, non plus. Alors, il y accole toujours un adjectif, c'est protectionnisme moderne, protectionnisme européen. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de dévier la ligne des Républicains aussi sur l'économie contre le libéralisme économique classique, Jean-Baptiste de Froment ?
Je crois que c'est en tout cas en phase avec l'attente majoritaire de l'électorat, qui a quand même l'impression on se fait avoir par les Chinois et que les règles du commerce international doivent être revues. Donc effectivement, l'idée d'un protectionnisme intelligent, c'est-à-dire en fait d'atteindre une vraie réciprocité dans les échanges, me semble pas exceptionnellement choquante. Après, je crois que c'est effectivement entre le discours entre Marine Le Pen d'un côté et puis Macron de l'autre, qui ont tous les deux des positions très nettes et très lisibles. C'est entre deux, protectionnisme auquel on accole un mot raisonnable ou je sais pas, intelligent.
Pour l'atténuer un peu.
C'est pas très très facile à vendre.
Mais alors justement, dans ce contexte-là, est-ce que ça n'est pas habile de prendre François-Xavier Bellamy, qui va en quelque sorte marquer un territoire, je ne sais pas, les lecteurs par exemple du Figaro Magazine, ça c'est quelque chose de clairement établi, Laurent Wauquiez disant, voilà, ça c'est à moi. Ce n'est pas une bonne tentative, Jean-Baptiste de Froment ?
Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté philosophe de Bellamy. J'ai aussi une formation de philosophe, et je veux dire quelque chose de paradoxal. Si je reviens à mon roman, je fais dire à un moment à un personnage qui est un vieux briscard de la politique, le prochain connard qui a une idée, je le fusille. Et s'il y a bien une chose qu'il faut proscrire en politique, c'est les idées. Et donc il y a un vrai danger.
C'est ce que vous avez appris en politique.
C'est ce que j'ai appris, quelquefois à mon détriment. Et donc je crois qu'il y a un vrai danger quand même à choisir quelqu'un d'intelligent, qui raisonne bien et qui justement va être un peu trop idéologue, un peu trop clair, un peu trop sans ambiguïté et un peu trop univoque, quoi. Un peu trop cohérent
et construit. C'est ce que
vous êtes en train de dire. Un peu trop cohérent et conséquent.
C'est extrêmement effrayant ce que vous êtes en train de dire.
Oui, mais parce que donc effectivement il va peut-être pouvoir séduire la petite portion des gens qui sont parfaitement d'accord avec lui, mais ça va être une portion forcément infime. Je crois qu'il faut être beaucoup plus attrape-tout si on veut vraiment réussir. Après, comme vous l'avez suggéré, le choix de Bellamy est un choix habile si on veut limiter la casse. On se dit, on est dans une élection européenne, la participation est faible, on sait qu'il y a certaines catégories sociales qui se déplacent plus.
Plutôt les personnes âgées,
classe moyenne supérieure, etc., qui correspondent en effet peut-être à l'électorat de François Fillon à la primaire notamment. Il faut réactiver ces gens-là, et de ce point de vue, François-Xavier Bellamy est peut-être le candidat idoine. Mais c'est vrai que c'est plus pour limiter la casse que pour préparer un vrai renouveau de la droite. Quoi.
8h30 sur France Culture, dans les matins, on continue à évoquer l'état de la droite, Frédéric Seize.
Oui, avec ce mot important que vous avez prononcé, Jean-Baptiste de Froment, le mot de primaire, c'est vrai que ce qui était étonnant pendant la présidentielle de 2017 à droite, c'était aussi cette primaire ouverte, exercice totalement inédit dans un parti qui a plutôt historiquement la culture du chef, un peu bonapartiste, où c'est le chef de parti qui s'impose et qui devient le candidat. Là, pour le coup, tous les citoyens étaient invités à s'exprimer dès lors qu'ils avaient une sensibilité de droite. Et on a l'impression depuis que cette idée est un peu passée de mode, cette primaire ouverte. Est-ce qu'à votre sens, c'était un essai unique qui n'aura plus d'avenir, notamment pour la prochaine échéance ?
Ça a un vrai défaut. C'est que ça oblige à parler d'abord à son propre camp. Et donc, finalement, alors qu'il faut s'adresser ensuite à toute la France, et donc à se construire une image. Enfin, ça peut privilégier, disons, le plus à droite ou le plus à gauche quand c'est une primaire de gauche. Et donc, je pense qu'il y a un vrai effet pervers. En même temps, vu l'absence de leader aujourd'hui, et une fois qu'on a commencé à ouvrir cette boîte de Pandore-là, je vois mal comment on pourra se passer à l'avenir d'un processus de sélection semblable, même s'il a plein de défauts.
Alors en politique, on parle souvent d'incarnation. À droite, il y a de plus en plus de personnages. On a parlé de Laurent Wauquiez, et on pourrait parler de Xavier Bertrand, et également de Valérie Pécresse, qui hier a tenté de lancer un appel à son mouvement libre en présentant une alternative.
Vous l'avez compris, je veux porter un autre projet pour la France. Notre France ne sera jamais celle de la nostalgie ni du retour en arrière. Sachez-le, notre France ne sera jamais celle d'Éric Zemmour et des déclinistes. Nostalgie est une société patriarcale qui n'est plus. Persuadée que c'était mieux hier et que ce sera pire demain.
C'est donc ce qu'on appelle une tentative, puisque Laurent Wauquiez a reçu Éric Zemmour et Françoise Fressoze, Valérie Pécresse, cherche à s'en distinguer.
Oui, alors la difficulté pour elle, c'est qu'elle n'est pas la seule à chercher à s'en distinguer. Et il y a un problème tactique chez elle. C'est-à-dire, elle a fait le choix de rester à l'intérieur du parti et de se battre à l'intérieur du parti. Ce qui veut dire qu'il faut qu'elle trouve, d'abord... Ça veut dire qu'elle considère que les partis ont encore du pouvoir, ce qui est encore à voir. Moi, je pense qu'on est dans une période assez populiste où, au fond, un candidat peut se fabriquer à partir des sondages et à partir de la force qu'il peut avoir dans l'opinion, parce que, au fond, LR est extrêmement discrédité. Donc, premier pari de Valérie Pécresse, est-ce qu'elle peut animer à l'intérieur même d'un parti affaibli une opposition qui lui donnera... voilà. La deuxième chose, c'est que moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, les alternatives à droite, c'est incarné par des présidents de région. Vous avez Valérie Pécresse, vous avez aussi Laurent Wauquiez, et puis vous avez Xavier Bertrand. Moi, un personnage qui m'intéresse parce qu'il s'est coltiné le Front National dans le Nord, Pas-de-Calais, et qu'il essaye de faire une droite un peu plus populaire. Beaucoup plus proche des préoccupations de ce que Marine Le Pen appelait ces gens qui ont vraiment qui sont à un euro près, et donc il incarne d'une certaine façon une image de la droite populaire peut-être beaucoup plus forte que Laurent Wauquiez. Et donc il y a toute cette cette concurrence entre ces personnages, et puis vous avez aussi cette partie de la droite qui continue d'être travaillée activement par Emmanuel Macron, et donc on peut estimer aujourd'hui que la recomposition n'est pas achevée et que chacun cherche ses marques mais n'a pas vraiment la main. Et ce que vous disiez en début d'émission est tout à fait vrai, c'est que vous avez aussi cette force d'attractivité du Front National avec quand même des têtes de pont de plus en plus importantes, notamment Nicolas Dupont-Aignan qui peut aussi faire un score important aux élections européennes et qui peut décrocher de les Républicains cette partie de droite qui veut être nationaliste, souverainiste et qui n'est pas encore fait le saut vers Marine Le Pen, mais qui peut, à travers Nicolas Dupont-Aignan, créer de nouvelles passerelles.
Et oui, parce que Nicolas Dupont-Aignan, alors, sur France Culture, on n'aime pas faire du commentaire de sondage, mais on voit que, effectivement, les intentions de vote en sa faveur ont cru depuis quelques mois. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Jean-Baptiste Defremont ? Est-ce que, finalement, ça n'est pas aussi un retour au RPR historique, au socle historique de ce RPR qui n'était pas très à gauche, qui avait comme ça une sorte de cocktail entre souverainisme, une possibilité aussi de parler à la classe moyenne.
Oui, effectivement, il reprend quelque chose d'un certain gaullisme historique. Je pense que c'est ça qui est intéressant chez lui. Et il incarne peut-être de façon plus pure, plus crédible pour une partie de l'électorat, vraiment la nation et la souveraineté. Je pense que Marine Le Pen a quelque chose dans sa personnalité qui marche auprès des classes populaires, mais si on cherche l'incarnation de la France, peut-être que Dupont-Aignan apporte quelque chose qu'elle n'a pas. Donc il a cet espace, je dirais, du nationalisme pur qui explique sa relative montée dans les sondages.
Et s'il fallait choisir entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand parmi donc ceux qui peuvent à droite se distinguer par rapport à la politique menée par Laurent Wauquiez, que diriez-vous, Françoise Fresseau, sur chances respectives des uns et des autres?
Le cas Xavier Bertrand m'intéresse parce que il me semble qu'il a été le premier, c'était au moment de la campagne des régionales, à prendre conscience de la difficulté, le risque pour la droite à un moment de plus pouvoir être le rempart face à l'extrême droite. Il l'a ressenti très profondément et il essaye au niveau régional de trouver une réponse à ça. Et donc il n'est pas du tout dans la théorie, il est plutôt dans comment je peux répondre dans une région qui est vraiment touchée à cette demande des classes populaires. Et je trouve que à partir de cette expérience régionale, il peut élaborer quelque chose qui n'apparaît pas ailleurs, parce qu'on reste peut-être un peu prisonnier de la technocratie ou du parisianisme. Donc je trouve que c'est en tout cas une figure intéressante. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron le cite dans les présidents de région qu'il a vus au moment des Gilets jaunes, et il dit l'un des seuls qui a vraiment vu le mouvement, c'est Xavier Bertrand. Donc il y a quelque chose d'intéressant dans l'expérience qu'il mène actuellement dans la région Hauts-de-France.
Mais la technocratie, Jean-Baptiste Defremont, le parisianisme, tout cela a plutôt bien réussi à la droite. Alors peut-être que les temps étaient autres, mais cela a bien réussi avec Jacques Chirac. Jacques Chirac n'était pas que corrézien, c'était d'ailleurs un corrézien d'adoption. Il y avait aussi l'époque du giscardisme. Vous n'étiez pas né, mais ça a existé tout cela. Pourquoi y aurait-il un besoin, en quelque sorte, de se couper du parisianisme pour la droite ?
Ah, je crois qu'il faut pas. Après, on est dans une époque très différente. Hein. Moi, je suis élu parisien. Le Paris du début des années 80 n'est plus le Paris d'aujourd'hui. Le Paris des années 80, c'était encore le Paris du métro à 5 heures du soir, du gaullisme. Hein. Il y avait des classes populaires, il y avait des ouvriers dans l'est de Paris. Voilà. Donc maintenant, on a une espèce de boboisation, comme on dit. Enfin, et ça n'est pas
bourgeoisification, comme le dit voilà. Le Parisien. Il y a un dossier du Parisien aujourd'hui.
Oui, on voit les prix de l'immobilier, on voit ce qu'il faut gagner pour habiter à Paris. C'est le cas de plus en plus dans d'autres grandes villes de France, et c'est un phénomène d'ailleurs mondial. Et voilà, dans ce contexte-là, on est clairement pas du tout dans le même rapport grande ville-province qu'on y était il y a 30 ans. Après, moi, je crois que, pour revenir à Valérie Pécresse un instant, il me semble qu'elle a peut-être quand même un espace, parce que Macron, là, est dans la difficulté. Avec le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il va plus pouvoir faire aucune réforme économique d'inspiration libérale. Et donc, l'espace du centre-droit, il va à nouveau peut-être se libérer, et je pense que c'est le pari que fait Valérie Pécresse, c'est de reconstituer un centre droit distinct et alternatif à Macron, en faisant le diagnostic qui est pas complètement idiot, que Macron maintenant va être prisonnier d'une forme d'immobilisme un peu centre-gauche. D'ailleurs, on voit que...
Centre-gauche sur certains aspects.
Sur certains aspects. Alors, c'est vrai, pas sur l'aspect, je reconnais, régalien et sécuritaire, où là, il donne des gages habilement à la droite.
Mais alors, ouais. Justement, parce que vous dites qu'il y aurait un espace pour une droite plus libérale, et c'est au fond ce qu'incarnait François Fillon, on peut imaginer, ou plus exactement tenter d'imaginer, ce qui serait advenu de la France si François Fillon avait été élu, y aurait-il eu ou non une crise des Gilets jaunes? Il se proposait par exemple d'augmenter la TVA. Bref, il y avait un certain nombre de mesures qui étaient des mesures d'inspiration libérale. Pensez-vous que François Fillon aurait échappé par exemple à la gronde?
Je crois que cette gronde vient de très loin, donc je ne sais pas si... quiconque aurait pu y échapper, très honnêtement. Après, l'avantage de François Fillon, c'est qu'il proposait un remède de cheval très très radical, et que donc il y aurait eu une vraie transformation. Alors peut-être pour le pire, hein, ou le meilleur selon son point de vue, mais il y aurait une vraie transformation du pays. Le problème avec Macron, c'est qu'il a pas beaucoup bougé. Et que donc il n'a pas non plus beaucoup donné de perspectives.
Je suis pas sûr que ce soit ce qu'on lui reproche le plus, de ne pas avoir assez bougé. Mais vous pensez qu'il aurait fallu des réformes plus radicales pour que...
Je trouve que le problème du macronisme, c'est qu'il est quand même pas très 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 lisible, et que il n'y a pas eu. Si vous regardez les grandes masses budgétaires, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Et à un moment, c'est quand même là où on met son argent qui fait la politique, quoi, et qui fait les changements politiques.
Françoise Fressoze.
Moi, j'ai un doute sur le fait que François Fillon serait passé à côté d'un mouvement des Gilets jaunes. Dès qu'il a été battu, François Fillon, qu'est-ce qu'a fait la droite? Et s'est empressé d'enlever dans le projet législatif les 2 points de hausse de TVA, oui. En se disant, c'est un remède de cheval, le pays n'y résistera pas. Et donc, je pense que l'une des difficultés de François Fillon, c'est qu'il n'aurait pas réussi à souder les droites autour de ce projet très radical de baisse de la dépense publique et de purge. C'est un peu ça qu'il disait, en disant, pour récupérer notre souveraineté, il faut absolument récupérer notre souveraineté budgétaire. Donc, il était allé très très loin dans la réduction des dépenses publiques. Et moi, ma théorie, c'est que une partie de la droite se serait très vite désolidarisée, notamment la droite chiracienne, qui dit on ne peut pas bousculer le pays comme ça, et qu'il ne serait pas allé très très loin dans les réformes.
8h42 sur France Culture, on continue à évoquer l'échiquier politique en compagnie de Frédéric Saïs, de Jean-Baptiste de Froment, conseiller de Paris et du Grand Paris, agrégé de philosophie, qui a publié un roman en partie prophétique intitulé État de nature, publié aux Forges de Vulcain, et Françoise Fressoze, éditorialiste politique au Monde. Françoise Fressoze, sur l'espace politique qui aujourd'hui demeure acquis à Emmanuel Macron, sur ses capacités d'agir avec ce grand débat, votre analyse?
il est passé à côté vraiment du boulet, je pense, Emmanuel Macron. Je crois qu'il a eu vraiment, d'ailleurs, il dit, j'ai été scarifié par le mouvement. C'est-à-dire qu'il a pris quand même en pleine figure une révolte sociale importante qui, en plus, n'est pas terminée puisque chaque semaine, il y a des manifestations. Il a trouvé cet échappatoire du grand débat national. Il l'a trouvé presque seul parce que son entourage n'était pas du tout fanat en disant vers quoi on va aller. Et au fond, il profite de ce grand débat national pour essayer de corriger sa relation avec les Français. Donc on a vu que les deux premiers débats notamment, il avait réussi à surprendre parce que il avait mouillé la chemise, il avait réponse à tout. Là, c'est en train un peu de s'émousser, mais il reprend un peu le dialogue avec les Français. Par ailleurs, il mène une politique habile vis-à-vis de la droite, puisque avec cette loi anti-casseur qui lui vaut 50 abstentions dans son camp, il réussit quand même à capter une partie de l'électorat de droite. Donc je pense que sa stratégie, c'est d'essayer de reconquérir son socle électoral et essayer de se donner les moyens d'aller quand même poursuivre son quinquennat et de réformer quand même autant qu'il peut en donnant des gages de transformation. Donc pour le moment, l'opération, au début, elle était très chaotique et très, on se demandait comment ça allait tourner. Là, on a l'impression quand même qu'il reprend la main et que c'est toujours la même cible. Quand même, c'est il estime que la fracturation de la droite n'est pas achevée et qu'il peut encore récupérer auprès de l'électorat de droite une partie de ses soutiens.
Jean-Baptiste de Froment, je m'en voudrais divulgacher votre roman État de nature, mais enfin dans cet état donc quasiment d'émeute dans lequel est la France romancée que vous décrivez, quel est l'échappatoire? Y a-t-il selon vous des parallèles adressés avec ce que notre pays est en train de vivre et cette gronde qui persiste de samedi en samedi?
Oui, alors moi j'ai fait l'hypothèse d'une révolte, même d'une révolution qui ne vient pas de l'avant-garde, contrairement à ce que voulait Marx, mais plutôt de l'arrière-garde, ou ce que les autres prétendent être une arrière-garde. Et effectivement, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est un peu la revanche du vieux monde contre le nouveau monde qu'on voudrait nous imposer. Et je crois que c'est souvent assez souvent comme ça, c'est rarement l'avant-garde du prolétariat qui porte la révolte, c'est souvent les laissés pour compte et les oubliés de la modernité ou de la modernisation. Après, mon roman ne se termine pas forcément très bien, malheureusement.
Françoise Fressoz, le fait aujourd'hui d'avoir ce grand débat, ça peut se terminer comment? Donc on lit la question ou la possibilité d'un référendum, un référendum à choix multiples. Il a été annoncé très tôt par les bruits, par les rumeurs. C'est étonnant quand même de l'avoir dit aussitôt. On chercherait à tuer cette formule.
Oui, d'autant que ce qui est étonnant, c'est qu'au fond, quand vous enquêtez autour des proches d'Emmanuel Macron, il y en a très peu qui sont d'accord avec ce référendum. Donc je pense que c'est des ballons d'essai qui sont lancés.
Moi, je pense qu'est-ce qu'il lui reproche à ce référendum?
Le premier débat, c'est de se dire est-ce qu'il faut le faire en même temps que les européennes? Et nous, qui sommes quand même un parti très européen, qui avons assumé notre ligne, est-ce qu'on n'est pas en train de complètement squeezer le débat européen avec le référendum? La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut faire un référendum à questions multiples? D'abord, est-ce que ça pose pas des problèmes? Est-ce qu'on peut le faire sur quel type de sujet on peut le faire? Et puis, au fond, est-ce que ça met vraiment à l'abri le président de la République d'un coup de colère de l'opinion? Je regardais le référendum sur le quinquennat, la participation a été très mauvaise. Donc il peut se produire que pour bouder Emmanuel Macron, les gens se disent mais on ne va pas aller voter à ce référendum.
Mais alors dans ce cas-là, comment sortir de ce grand débat national? Parce qu'on sait très bien qu'il ne peut pas être perçu comme un scrutin, évidemment. Un sondage n'a aucune valeur en matière de légitimité républicaine. Donc qu'est-ce que vous faites? Comment vous prenez des décisions à l'issue de tout cela?
Alors, je pense que là, pour le moment, il gagne du temps, Emmanuel Macron. C'est-à-dire, il s'est donné du temps pour voir un peu, pour sentir l'opinion et voir. Après, il peut faire un discours solennel en disant, voilà les messages que j'ai pris. Je pense que s'il fait que sur la question institutionnelle, ça sera insuffisant. Et donc, il faut à la fois qu'il arrive à bien comprendre les attentes de l'opinion, qu'il arrive à faire des inflexions assez majeures, notamment dans sa façon de gouverner. Et je pense que son objectif, quand même, c'est de pas trop se distancer de ce pourquoi il a été élu, parce qu'il doit aussi conserver son socle à lui.
Dans les journaux, on entendait Jean-Luc Mélenchon. Il y avait aussi Marine Le Pen qui lui proposait gentiment une dissolution.
Oui, mais enfin là, ils sont un peu de mauvaise foi, parce que c'est les deux... C'est les deux qui ont sans arrêt plaidé pour le référendum et l'appel au peuple. Donc voilà.
Merci en tout cas à tous les trois, Frédéric Seyss, Jean-Baptiste de Froment. Je rappelle le titre de votre roman, État de nature. Il est publié aux Forges de Vulcain, Françoise Fressoz. On vous lit dans Le Monde.